Marcelino Truong, bonjour. Vous êtes ici à Angoulême pour présenter votre livre Une si jolie petite guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le synopsis ?
Bonjour. C'est un roman graphique où je raconte en détail un séjour de 2 ans que j'ai fait au Vietnam avec ma famille entre juillet 61 et juillet 63, au moment où le Vietnam entre dans un... replonge dans un conflit qui va prendre des proportions énormes. C'est l'époque où Kennedy, qui vient de prendre ses fonctions aux États-Unis en janvier 61, a annoncé qu'il allait voler au secours des pays mis en danger par ce qu'il appelle la marée rouge. On est en pleine guerre froide. Et donc le Vietnam est en train de se transformer en un bastion anticommuniste. Et malheureusement, on déterre la hache de guerre et les choses vont aller de pire en pire.
Et comment vous est venue l'idée de raconter cette période de votre vie ?
En fait, ça fait vraiment très longtemps que je voulais raconter cette histoire parce que je l'avais trouvée très, très, très haute en couleur et spectaculaire souvent. Mais en dehors du spectaculaire, j'avais beaucoup aimé la vie quotidienne à Saigon où il faisait bon vivre malgré le climat de tensions croissantes. J'avais aussi la chance pour reconstituer cette époque où j'étais quand même très jeune. Quand je suis parti, j'avais 6 ans. J'avais la chance d'avoir les lettres que ma mère écrivait à sa famille en France. Ma mère est française, mon père est vietnamien. J'avais les lettres que maman écrivait à ses parents en France pendant toute la durée de notre séjour au Vietnam. Donc ces lettres m'ont permis de reconstituer notre quotidien que j'ai complété ensuite de lecture et de conversation avec des tas de gens qui avaient vécu cette époque, à commencer par mon père et tous les membres de la famille du côté vietnamien.
Est-ce que c'était facile de se replonger comme ça dans l'histoire familiale sur une période qui était quand même assez tendue ?
Non, on a toujours quelques craintes d'abord lorsqu'on parle de sa famille. C'est un sujet délicat parce qu'on n'a pas envie d'accabler ses parents qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais j'avais à cœur de faire un récit qui soit franc, qui soit réaliste, qui ne se raconte pas de... J'avais pas envie de montrer une vision idyllique de notre vie de famille. Je voulais au contraire montrer que la guerre, c'est pas seulement le front et les combats, c'est aussi des tas de gens qui essayent de vivre comme si de rien n'était, mais qui sont tendus et souvent bouleversés par ce qui se passe autour d'eux. Ça concerne donc aussi, bien sûr, les civils et ceux qui sont bien que loin du front, qui sont obligés de subir les événements. Donc j'ai fait une peinture assez réaliste des angoisses de ma mère, par exemple. C'était un peu délicat, mais j'espère l'avoir fait avec tact, malgré tout.
D'ailleurs, le titre, Une si jolie petite guerre, est-ce qu'on peut le voir comme un double sens sur la guerre au Vietnam et la guerre que mène votre mère, quelque part, contre cette vie qu'elle a du mal à supporter ?
Ah, j'ai pas pensé à ça. Pour ce qui est de la condition de ma mère qui était maniaco-dépressive et qui menait son combat quotidien contre sa maladie. Une si jolie petite guerre, c'est avant tout un titre ironique, évidemment, faisant allusion aux mémoires des journalistes et des correspondants étrangers à l'époque racontent souvent qu'au début, au moins, ceux qui arrivaient à Saigon à ce moment-là ont trouvé Saigon une ville très agréable à vivre. Et la situation, avec son cocktail de danger, de violence, de politique, avait quelque chose, au moins au début, d'assez excitant. Disons qu'il valait mieux être correspondant étranger à Saigon en 61-62 qu'en Afrique noire, notamment au Katanga, pour la décolonisation de l'Afrique. C'était plus agréable au Vietnam. Et le titre, évidemment, est très ironique. Cette guerre, comme toutes les guerres, n'avait rien de joli. C'était juste pour évoquer quand même une certaine excitation qui régnait dans l'air. certaine adrénaline à cause de la guerre qui faisait qu'on avait envie de vivre encore plus et plus vite. C'est souvent ce qui se produit dans les guerres. Les gens ont envie de vivre ne sachant pas s'ils seront encore là demain.
Alors vous avez dit que vous avez fait beaucoup de recherches pour reconstituer un peu ces 2 ans au Vietnam. Est-ce que justement ça a changé le regard sur vos parents que vous avez pu avoir pendant la période ?
J'ai lu énormément, interrogé beaucoup de témoins de cette époque, à commencer par mon père, mais aussi ses cousins et cousines, dont bon nombre étaient du côté du FNL, donc on fait route avec les communistes. Et ça, on l'a appris par la suite. Moi, je les ai rencontrés dans les années 90, longtemps après, et j'ai pu entendre leur point de vue, ce qui m'a été très utile pour avoir une vision plus large de cette guerre. En reconstituant l'époque et en lisant, plus je lisais sur la période, plus je me demandais comment j'avais bien pu trouver cette période fascinante ou agréable malgré la tension, parce que la situation était quand même vraiment grave et préoccupante. Et après ça a été l'escalade, ça n'a fait que s'aggraver. Mais malgré tout, on s'ennuyait pas, quoi. Il se passait toujours quelque chose. Je crois que c'est ça qui m'a fasciné.
Finalement, c'était ma question suivante. Comment, à titre personnel, vous avez vécu ces 2 ans au Vietnam ?
Bon, moi, j'étais un gamin je suis arrivé quand j'avais 4 ans. On arrivait des États-Unis parce que mon père était diplomate pour le Sud-Vietnam de l'époque. Et quand je suis arrivé à Saigon, la situation m'a tout de suite intéressé parce que j'étais un petit garçon qui aimait bien les soldats, les avions, les hélicoptères, tout ce matériel qui fascine souvent les petits garçons. Et là, j'étais de ce côté-là, j'étais comblé puisque le Sud-Vietnam était en train de s'équiper pour une nouvelle empoignade. Et on voyait dans le ciel passer des avions et des hélicoptères. Et j'ai même un jour assisté à l'arrivée d'un porte-avions, le 1er décembre 61. Un porte-avions qui par la suite fera de nombreuses rotations. Et ce porte-avions nous livrait le cadeau de Noël de Kennedy pour Noël 61. C'était la première livraison de 38 hélicoptères H-21, les hélicos qui ont la forme de banane, on les appelle les hélicos bananes. Donc ça se déroulait au bout de notre boulevard, qui s'appelait le boulevard Nguyen Huệ, charnière du temps des Français. Au bout du boulevard, il y a la rivière de Saigon, il y a un mini-golf, il y a des quais où on peut se promener. Et la rivière est une rivière en eau profonde, ce qui fait que des navires importants peuvent se mettre à quai, mais au bout en plein centre-ville. Et cette livraison se faisait au grand jour, au vu au sud de tout le monde, et ça avait quelque chose de vraiment spectaculaire, pour un enfant en plus.
Comment ce livre a été accueilli dans votre famille ?
Ma grande crainte était de heurter mes parents, puisque je les dépeins dans leur vie de famille, dans leur vie de couple même. Mais je n'ai pas eu de réaction hostile. Il faut dire que mes parents étaient entrés dans le grand âge quand j'étais en train de terminer le livre. Et même mon père, malheureusement, est mort. En juin 2012, au moment où je venais de terminer les crayonnés de l'ensemble du livre. Donc, il n'a jamais vu le livre terminé. Mais il a pu lire les crayonnés très détaillés et très précis des 150 premières planches. Et je craignais un peu son jugement, parce que c'était un homme très, 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 très cultivé et aussi très exigeant pour la qualité. Mais en relisant mes crayonnés, Il n'a fait aucun commentaire sur la manière dont je dépeignais la vie de famille et sa vie de couple. Il tenait simplement à ce que tout ce qui concerne sa carrière professionnelle soit exact. Et sans doute était-ce parce qu'il avait, à la fin de sa vie, il avait envie que son parcours soit raconté de manière exacte. Mais j'ai pas eu de problème. Quant à maman, elle est âgée aussi maintenant, et elle vit dans une sorte de nuage qui fait que les choses très concrètes lui échappent. En revanche, au plan sentimental, elle est très présente. Donc, quand elle a vu que j'avais fait un livre et que j'avais un article dans West France, par exemple, parce que ma mère est de Saint-Malo, elle était contente pour moi en me disant « Ah, je vois que ça marche pour toi ». Mais je n'ai pas jugé utile de lui faire lire le livre. Elle en serait incapable. Et puis, le Vietnam avait aussi, pour elle, parfois elle avait mal supporté certaines choses. Donc, parfois, ça pouvait déclencher, ça pouvait être une source d'anxiété pour elle. C'était un sujet délicat et comme la plupart des gens, elle n'aimait pas la guerre du tout, donc ça pouvait éveiller de mauvais souvenirs. J'évitais un peu d'en parler.
Quels sont vos projets actuels ?
Alors en ce moment, entre les commandes ponctuelles pour la presse ou l'édition, je suis en train d'écrire la suite de ce roman graphique qui portera sur les années 63 à 75, donc 75 étant la fin de la guerre du Vietnam. Et là, je vais raconter la suite de notre vie de famille. Les Truong s'étant installés en Angleterre. Mon père, en juillet 63, a été nommé à l'ambassade du Vietnam à Londres. Un an après, il a donné sa démission parce que le président avait été assassiné, et les généraux, les militaires qui lui ont succédé, ils ne se sentaient aucune loyauté pour cette équipe-là. Et puis, je crois aussi que mon père redoutait beaucoup un rappel au Vietnam. S'il était resté aux fonctionnaires, il aurait pu être appelé. Or, la condition de maman était maniaco-dépressive et très fragile, donc la moindre angoisse aurait pu déclencher ou aggraver son état. Donc il a pris une décision très courageuse, il a démissionné. Et ont commencé 6 années très difficiles où il a dû se refaire comme journaliste, d'abord à l'agence Reuters et comme correspondant de La Croix à Londres aussi. Il faisait 3 ou 4 boulots en même temps. Parce que nous avions la nationalité, nous les enfants, les 4 enfants avions la nationalité vietnamienne et on allait au lycée français, mais on payait plein pot, donc ça coûtait une fortune. Et mon père s'est donné énormément de mal pour se refaire une vie, quoi. La politique a sérieusement compliqué son existence parce que s'il y avait eu la paix, il aurait pu prétendre à une carrière, une belle carrière de haut fonctionnaire. Alors que la guerre a tout bouleversé. C'est ça que je vais raconter dans la suite. Et je vais évidemment donc beaucoup parler du Londres des années 60 et 70, parce qu'on a quitté un conflit qui prenait des proportions gigantesques pour arriver dans un pays qui commençait à entrer dans une nouvelle forme de secousse. C'était la révolution pop et hippie. Ou en Angleterre, ça a été bien avant Thatcher. C'était l'époque des travaillistes, Wilson, et c'était encore Macmillan quand on est arrivé. Mais l'Angleterre a connu après un sursaut incroyablement dynamique, mais très bouleversant, où toutes les valeurs étaient remises en cause. C'était la pop, les Stones, les Beatles et tout le reste, mais aussi le mouvement hippie, auquel mes sœurs et moi, on a plus ou moins participé. Mais vraiment, en Angleterre, tout est plus excessif qu'en France. Donc c'est dans ce climat que nos parents ont dû éduquer 4 enfants. Et ils ont eu bien du mal parce que rien ne les préparait à ça. C'est ça que je vais raconter dans la suite aussi. Parce que Londres, il y avait quand même une ambiance très forte dans ces années-là.
Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie envisagée ?
Oui, je dois rendre ma copie en mars 2015 pour une sortie sans doute À l'automne, à la rentrée 2015, septembre je pense. J'aurais bien voulu sortir en avril 2015 pour l'anniversaire de la fin de la guerre au Vietnam, 30 avril 2015, mais je crois que, soyons réalistes, j'ai juste un an pour faire ce livre, c'est déjà très peu. C'est un travail énorme.
Finalement, Une si jolie petite guerre, est-ce plus une autobiographie ou un récit de la guerre du Vietnam ?
C'est un peu les deux. C'est totalement autobiographique. Je ne raconte que des choses vraies. Je n'invente rien en ce qui me concerne dans la peinture de ma vie personnelle et de ma vie de famille. Mais à travers notre vécu à nous, je crois qu'on sent quand même la guerre du Vietnam et l'effet qu'elle a sur la vie d'une famille. Donc je ne parle pas beaucoup de choses dont je n'ai pas été témoin. Sauf de temps en temps pour aller suivre une opération militaire, il faut bien montrer ça. Donc j'envoie un journaliste sur place et on le suit. Et je le referai dans le tome suivant. Mais le sujet de la guerre occupe quand même une place énorme. Et dans le tome suivant, je vais raconter de quelle manière on a continué à suivre attentivement les événements du Vietnam, puisque notre famille était là-bas, les grands-parents, les cousins. Et on suivait les événements avec beaucoup d'inquiétude depuis l'Angleterre et moi ensuite depuis la France. Mais on la vivait dans nos tripes. Moi j'avais la nationalité vietnamienne donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc en avril 75, j'avais encore la nationalité vietnamienne. Et techniquement, j'avais 17 ans au moins, presque 18, j'étais mobilisable normalement. Donc évidemment, quand on était à l'étranger, on était à l'abri de ça, ce qui est très injuste d'ailleurs. Mais je me sentais concerné. Et dans mes fantasmes, je me disais, qu'est-ce que je ferais si jamais je dois devenir soldat dans l'armée du Sud ? C'est quelque chose dont on se sentait, on était concerné.